Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes lundi 18 octobre 2021. C'est l'heure de suivre le journal sur la radio Nzamba Gati Kakawi. D'abord les titres. Deux corps sans vie ont été découverts. Il s'agit de celui d'un homme qui avait été porté disparu et trouvé ce lundi dans la zone Kinama, mairie Bujumbura, et celui d'une femme septuagénaire sur la colline de Yaranda, dans la commune Kirundo, qui pourrait avoir été tuée par son neveu. Et puis, les tout premiers Burundais ont été vaccinés contre le Covid-19 à Bujumbura ce lundi, un véritable tournant dans la lutte contre la pandémie, alors qu'au même moment, le premier ministre en personne dénigre le même vaccin en disant à la population qu'il est dangereux, voire mortel. Les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la réouverture des bureaux de change. L'Olicom se joint aux échangeurs en fustigeant les conséquences de la fermeture de ces bureaux. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Je vous le disais dans les titres, découverte ce lundi du corps sans vie de Jean Bosco Nishimana, cet habitant de la zone Kinama au nord de la mairie de Bujumbura avait été porté disparu depuis jeudi dernier. Il était parti après avoir répondu à un appel téléphonique. On fait le point avec Benny Axelakana.
Le corps sans vie de Jean Bosco Nishimana a été retrouvé ce lundi au quartier Kinyangonge, à moins de 5 km de son domicile, se trouvant au quartier Wukilasazi, en zone urbaine de Kinama. Il était en décomposition, selon des témoins, raison pour laquelle sa famille a décidé de l'enterrer dans l'après-midi de ce lundi. 5 jours avant, le 14 octobre dernier, ce père de 4 enfants avait été appelé de son domicile au téléphone en fin d'après-midi par une personne qui n'a pas encore été identifiée selon un proche. Depuis cette date, il n'avait plus donné signe de vie malgré les messages d'alerte lancés sur les réseaux sociaux pour le retrouver. Ses proches précisent qu'ils l'avaient cherché dans différents cachots de Bujumbura, mais en vain. La même source affirme que Jean Bosco a été tué et que le mobile et les circonstances de sa mort n'ont pas encore été déterminées. Nous avons tenté de joindre par téléphone le porte-parole de la police, mais sans succès.
Merci Benny Axelakana. Une septuagénaire a été assassinée la nuit de ce dimanche à lundi. Cela s'est passé sur la colline de Yaranda, dans la commune Kirundo. Une somme de 300 000 francs burundais a été trouvée éparpillée sur le lieu du crime. Un neveu de la victime, soupçonné d'avoir commis le meurtre, a été arrêté, Trifine Kanyuabo.
La septuagénaire qui a été connue sous le nom d'Okobe Dete, le présumé auteur du crime, est le neveu de la septuagénaire nommée Zitonda, âgée de 27 ans. En commettant le crime, il a introduit un coup de couteau dans la hache de la vieille dame et est morte sur le champ, d'après notre source. Une somme de plus de 300 000 francs burundais a été trouvée sur le lieu du crime. Le neveu de la vieille dame a pris le large sans cet argent, selon notre source sur la colline Yaranda. Zomalinda, prenant le large, a été arrêté sur la colline d'Ovunga de la commune Kirundo. Le mobile du crime serait les conflits fonciers, d'après notre source.
Après l'avoir introduit un coup de couteau dans la hanche, il a pris le large avant d'être arrêté dans la localité de Vunga. Le criminel avait trouvé de l'argent équivalent à 300 000 francs burundais, mais il n'a pas emporté la somme, il l'a laissé sur place.
Signalons que Nzobalinda, présumé auteur du crime de la septuagénaire Kobe Dete, est pour le moment incarcéré au commissariat de police à Kirundo.
Trifine Kanyuabo. La nouvelle a eu l'effet d'un choc chez l'association AC Génocide Chirimoso. Le ministère de l'Intérieur vient en effet de limiter à 10 seulement le nombre de membres de cette association pour participer à la 28e commémoration du massacre de Kibimba, où près d'une centaine d'élèves d'ethnie Tutsi avaient été brûlés vifs. La cérémonie est prévue ce 21 octobre. Ce ministère évoque des raisons de Covid-19. L'association AC Génocide Chirimoso, section Canada, crie aux deux poids, deux mesures Elle dit ne pas comprendre pourquoi cette limitation n'est pas appliquée à d'autres organisations. Par ailleurs, cette association dit constater chaque fois des contradictions du gouvernement quand il s'agit de répondre aux doléances qui lui sont soumises au sujet de cette commémoration. Écoutez Emmanuel Ngurunziza, secrétaire général de l'AC Génocide Chilmoso, section Canada.
Nous avons d'abord été affligés et nous avons constaté ce deux poids, deux mesures, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que notre organisation subit une persécution tant directe qu'indirecte de la part de ce régime. Et ce n'est pas étonnant parce qu'à l'époque, ils étaient gênés de ce que, à côté de la campagne de négation du génocide de Tutsi qu'ils entretiennent par le biais de leur CVR, eh bien, il y avait toujours des gens qui savent et qui tiennent à rappeler au monde qu'il y a eu génocide contre les Tutsis et que ce sont justement ces morts, que ce sont ces mémoriaux, notamment celui de Kivu, qui hantent même ce régime. Ils essaient de trouver des raisons fallacieuses pour empêcher à tout prix à notre organisation qui rappelle, entre autres choses, les mots, les crimes ignominieux à l'encontre de la composante tutsi de la nation burundaise. Comme nous le disions tantôt, la contradiction devait les attendre au coin de la rue, quoi qu'ils fassent, parce que ayant évoqué comme raison principale le besoin de protéger la population, de limiter, protéger la population contre la pandémie de Covid-19, que pour cette raison donc on ne peut pas s'y rendre à plus de 10, eh bien, nous tendrions à ce que cela soit appliqué à tout le monde. Hélas, nous avons vu la semaine dernière des centaines, si pas des milliers de personnes autorisées à participer à la commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Gbagbo Sole. Nous pensons et nous lançons même en défi à quiconque, si d'ici une semaine, ce ne sera pas des milliers ou des centaines qui seront autorisés à aller s'incliner devant le mausolée de Melchior Ndadaye, eh bien, cela montre que c'est une mesure, c'est une politique de deux poids, deux mesures, persécution et interdiction.
Ils ont eu l'audace de réclamer l'argent qui leur avait été promis et ils sont en train de le payer cher. Ils, ce sont deux militaires de l'armée burundaise en détention depuis plus d'un mois, avec trois civils, dont un Burundais et deux Congolais. C'est le mouvement rebelle Gumino Twigwa Neho des Congolais de la communauté Banyamulenge qui s'était engagé à leur payer l'argent en question. Mais leur arrestation par le service national des renseignements burundais aurait également été motivée par un conflit entre l'un des militaires et un agent de renseignement. Blaise Nijimbere nous en dit plus.
C'est la course à l'achèvement, il cite, combinée à une certaine forme de jalousie entre les agents du service national des renseignements burundais qui auraient poussé Prosper Ngogazabagabo, considéré depuis un bon bout de temps comme agent du service national des renseignements burundais au camp de Nakivale en Ouganda, de rentrer au Burundi avec deux Congolais de la communauté de Banyamulenge. Ces derniers seraient des émissaires du groupe rebelle Gumino Twigwa Neho. Des sources de la radio Inzamba auprès des agents du service national des renseignements révèlent que Prosper Ngogazabagabo aurait contourné un certain Pierre Sengiyumva, connu sous le sobriquet de Peter Maranatha, qui serait le représentant du service national des renseignements en Ouganda. Les mêmes sources font savoir que c'est Peter Maranatha qui avait connecté Prosper Ngogazabagabo et son équipe des émissaires du mouvement Gumino avec un des responsables des services nationaux de renseignement burundais à Bujumbura. Toujours selon les sources de radio Inzambagatera Kawe, auprès des agents du service national de renseignement, le trio Prosper Ngogazabagabo, Brice Buhanda et le nommé Mutoni, depuis leur arrivée au Burundi, cette course derrière l'argent aurait également motivé l'agitant chef Arsi de Segaterama pour rencontrer Prosper et ses compagnons et leur permettre de les reconnecter chez les hauts responsables moyennant une somme d'environ 1000 dollars américains. Les émissaires de Gumino promettaient une somme de plus de 15 000 dollars américains une fois que les organes de l'État du Burundi arrivait à accepter de coopérer avec le mouvement Gumino Twigwa Neho. Quant au lieutenant-colonel Benoît Barungura, commandant en second du 11e bataillon blindé, était parmi les officiers qui étaient contre la spoliation des terres de l'Ubigizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura aux habitants de la localité par un officier des services nationaux de renseignement burundais, Alexis Ndayikengurukiye, sinomé Nkoroka. Le lieutenant-colonel Benoît Barungura aurait déjà arrêté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur ses magouilles. C'est ce conflit toujours latent qui aurait poussé Alexis Ndayikengurukiye, sinomé Nkoroka, de prendre le devant dans ces arrestations de personnes présumées être des ennemis du Burundi et leurs présumés complices.
Inzamba. Poursuivons ce journal avec ce tournant dans la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement a commencé à administrer les premières doses de vaccins contre le virus dans l'après-midi de ce lundi. Le lancement de cette opération a eu lieu au site du programme élargi de vaccination situé en bas de l'hôpital Prince-Régent Charles à Bujumbura. Mais aucune autorité n'était présente. Et pour cette première, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Des témoins sur place affirment que seules une vingtaine de personnes s'étaient faites vacciner jusqu'à 17 heures. Au même moment, les hautes autorités du pays continuent de se moquer de ce même vaccin contre le Covid-19 devant la population de Rutana, sa province natale. Ce dimanche, Alain-Guillaume Bougnoni leur a expliqué que le vaccin n'a pas subi assez d'études pour être efficace, d'où le risque d'avoir des conséquences néfastes pour les vaccinés. Et le Premier ministre d'ajouter que des personnes vaccinées tombent malades et décèdent même. Suivez-le.
Nous avons été tous vaccinés à maintes reprises depuis notre enfance, mais le vaccin contre le coronavirus a été précipitamment approuvé. Et les chercheurs qui ont mis sur le pied ce vaccin n'ont eu assez de temps pour identifier les conséquences probables. Certains n'osent même pas le dire à haute voix, mais vous avez le droit de connaître la vérité. C'est pour cela qu'à l'achat de ces vaccins, les pays qui ont la licence de production exigent la signature d'un document qu'ils ne seront pas responsables des conséquences qui suivront. C'est pour cela, encore une fois, que les demandeurs de vaccins auront à signer volontairement un acte d'engagement pour que les effets qui s'en suivront n'engagent que eux-mêmes. Mais c'est quasiment impossible de compter sur soi-même car la famille et l'État seront là pour intervenir dans les soins. Mais comme on n'est pas encore au courant des effets secondaires du vaccin, ça sera difficile également de savoir le domaine d'intervention. Il est vrai que quand une personne est menacée par une maladie, elle prend risque de consommer tout ce qui peut la soulager. C'est la même chose pour ce vaccin. Mais nous avons un programme du gouvernement qui a permis de lutter efficacement contre la COVID-19. Je guéris, je ne transmets pas. On ne veut pas entendre bientôt les lamentations comme quoi l'État ne vous a pas dit la vérité. La réalité, c'est ça. On ne pourra pas empêcher les gens de se faire vacciner. C'est leur droit de se faire vacciner. Autre chose, s'ils sont vaccins, les personnes vaccinées ont tombé malades et décédées, mais on ne peut pas prendre ce risque dans le domaine que même les concepteurs du vaccin ne comprennent pas et le placer avant le programme du gouvernement qui nous a été très bénéfique.
Le gouvernement devrait cesser de badiner avec la santé de la population. Appel du président de la coalition de l'opposition, Sefor Arusha, Frédéric Banvogui-Muvila, met en garde le gouvernement sur ce qu'il qualifie de contre-campagne à la vaccination contre le Covid-19. Que les personnes qui seront emportées par ce virus seront mises sur le dos du pouvoir en place. On l'écoute.
Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que ce n'est pas une question qui concerne uniquement les Burundais, ça concerne le monde entier. Et il n'y a pas de médicament qui soit proposé, qui vient soigner cette maladie. Et il a été proposé le vaccin. Et les gens qui meurent, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision? Faut-il garder cette indécision ou il faut que quelque part ils décident d'aller vers la population et expliquer qu'il faut qu'elle se fasse vacciner? Pourquoi aujourd'hui on entend qu'il y a des grosses légumes qui vont se faire vacciner à l'ambassade du Kenya? Pourquoi? Alors que justement, on laisse la population dire, voilà, vous, attention, c'est vrai, le vaccin, il est là, mais gare à vous, si vous y allez, n'allez pas pleurnicher après. Mais dans l'entretemps, et les gens qui meurent, les gens qui perdent les leurs, quelle est leur situation? Ne faut-il pas accepter de se faire vacciner et peut-être résister? Il dit que il a observé qu'il y a des gens qui ont été tués alors qu'ils avaient été vaccinés. Je ne sais pas à quel pourcentage il peut évaluer une telle situation. Parce qu'un responsable comme lui ne peut pas dire des choses comme cela sans aucune base mathématique pour dire, voilà, nous avons mené une enquête, nous avons constaté que sur 100 personnes vaccinées, 80 ont été tuées par après par la même maladie. Et par conséquent, je crois que le gouvernement a la mission de dire à la population que le vaccin il est là et qu'ils doivent se faire vacciner. Et non pas que eux, de leur côté, ils aillent en clandestinité se faire vacciner ailleurs, comme si la population n'avait pas besoin justement de ce vaccin. En tout cas, les gens continuent à mourir, c'est un fait. Et demain, si les gens continuent à mourir comme cela, qui va être responsable? C'est ce même gouvernement à qui on va imputer la responsabilité.
Inzamba. Parlons économie cette fois. Un système automatisé de traitement des chèques en compensation a été instauré depuis le 10 septembre de cette année. C'est ce qu'a annoncé Jean Bosco Ndikumana, conseiller à la direction chargée du système de paiement à la Banque centrale du Burundi. Il a dit lors d'un point de presse organisé ce lundi au siège de la BRB à Bujumbura. Écoutez-le.
La Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, porte à la connaissance du public en général et des clients du secteur bancaire en particulier qu'un système automatisé de traitement des chèques en compensation est opérationnel depuis le 10 septembre 2021. Ainsi, pour assurer le fonctionnement optimal et sécurisé du système et dans l'intérêt de tous les utilisateurs, les règles suivantes doivent être respectées pour les paiements interbancaires. 1. Utiliser obligatoirement les chèques normalisés qui sont disponibles auprès des banques commerciales et de la Régie nationale des postes. 2. Veiller à ne rien écrire dans la partie inférieure du chèque où se trouvent les informations nécessaires et requises pour le traitement automatisé des chèques, à savoir le numéro du chèque, le numéro du compte, les codes banque et codes agence, le code devise et la clé de contrôle. 3. Veillez à ne pas dépasser un montant de 15 millions de francs burundis sur un chèque à traiter en compensation automatisée. 4. Et dernier, utilisez les ordres de virement quand le montant à tirer est supérieur à 15 millions de francs burundis.
Et puis, les bureaux de change au centre-ville de Bujumbura abritent aujourd'hui d'autres activités. C'est l'une des conséquences de leur fermeture. Certains échangeurs indiquent qu'ils enregistrent une perte énorme et ajoutent que la pénurie de devises qui s'observe est causée par cette fermeture. Ils demandent la réouverture des bureaux de change. Le constat avec Jean-Marie Ndabashinze.
Dans certains endroits visités par la radio Inzamba dans la ville de Bujumbura, des maisons qui habitaient les bureaux de change accueillent aujourd'hui d'autres services. Le cas illustratif est l'avenue de l'amitié où opérait le cambiste surnommé Kirawata. Aucun signe d'un bureau de change, même au boulevard des Nations Unies tout près de la Sokabu, les anciens bureaux de change ne gardent aucune trace. Certaines personnes qui ont voulu garder l'anonymat indiquent qu'il y a un manque criant de devises ces derniers jours suite à la décision du gouvernement de fermer toutes ces maisons de change. Aujourd'hui, ils sont obligés de travailler en cachette au marché noir. Une perte énorme dans la caisse de l'État, car même les investisseurs étrangers craignent de venir opérer au Burundi, un seul pays au monde où seule la banque centrale distribue la monnaie en devise, précise ce cambiste. Ces derniers demandent au gouvernement de revenir sur sa décision et permettre au bureau de change de fonctionner de nouveau, car la dévaluation de la monnaie burundaise atteint son paroxysme. Un dollar américain est converti à 3600 francs burundais actuellement. Rappelons que la décision de fermer les maisons de change au Burundi a été prise en date du 10 février 2020. Jean Chiza, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, a souligné que toutes les devises doivent passer par les banques du pays.
Les bureaux de change doivent être rouverts pour limiter les dégâts causés par leur fermeture. C'est l'appel de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Le LUCOM vient d'adresser une correspondance au président de la République à ce sujet. Gabriel Ufili, président de l'LUCOM, affirme que la fermeture de ces bureaux est à l'origine du manque de devises et qu'elle a favorisé la vente frauduleuse des devises. Écoutez Gabriel Ufili.
L'LUCOM ne comprend pas comment une telle décision peut être prise, alors que c'est une décision vraiment qui témoigne en suffisance que les conséquences sont très néfastes. Quand la décision a été prise en février 2020, l'OLICOM a décrié la décision et on a montré que ceux qui ont pris cette décision ne sont pas vraiment des gens qui aiment le pays. Ce sont des gens qui haïssent le pays Certes, ils peuvent le faire sans savoir les conséquences qui se trouvent derrière cette décision, mais au fil du temps, ça témoigne réellement que cette décision est une décision qui ne va pas aider le pays. Aujourd'hui, la monnaie étrangère, surtout le dollar, coûte presque le double de la monnaie locale. Imaginez aujourd'hui, au niveau des banques commerciales, le dollar coûte autour de 2000 francs. Mais si vous allez au marché noir, vous recevez autant de devises que vous voulez pour un montant de 3 700 à peu près par dollar. Donc, c'est presque le double. C'est vraiment des choses inacceptables parce que aujourd'hui, la monnaie étrangère est devenue comme de la drogue, des stupéfiants, de tel point que comme ne peut pas comprendre comment une telle décision peut durer comme ça. C'est pour cette raison que l'ORICOM a adressé une correspondance au chef de l'État pour atténuer vraiment l'impact de cette décision. Cette décision qui a été prise certainement, je le dis bien vraiment certainement, par des gens qui ne veulent pas du bien pour le pays. Aujourd'hui, on peut vraiment dire sans se tromper que cette décision a des impacts négatifs sur le plan économique, sur le plan relationnel, sur tous les plans. Cette décision, c'est une décision vraiment néfaste qu'il faut à tout prix combattre.
Parlons sport pour terminer. Les équipes de Dynamo et Urunani chez les hommes, Gladiator et Young Sisters chez les dames se sont qualifiées pour la finale des héros. Le Prince Hugo Agassolé et Melchior Dadaye prévu jeudi prochain. Au football, la formation de Bumamuru occupe provisoirement la première place du championnat Primus League après la 8e journée. Les détails avec Joséphine Jones-Munzimana.
Le match le plus attendu de cette 8e journée a opposé Messager Ngozi à Vitalo au stade Lukundo Dobouye. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score, mais les joueurs de Messager n'ont pas baissé les bras. Ils ont vite égalisé et ont marqué le but de la victoire vers la fin du match. Dans les autres rencontres de cette journée, Musongati a battu Bumamuri par 2-1. Même score entre Burundi Sport Dynamique et Flambeau du Centre en faveur de Dynamique. Kayanza United et Royal se sont quittés sur un score nul et vierge. Olympic Star et les Crocos ont fait match nul d'un but partout et c'est le même score entre Aigle Noir et Abuja City. Ce club de Makamba vient de passer 4 matchs sans victoire. Malgré ses mauvaises performances pour un club qui lutte pour le titre de cette année, les autorités du club ne sont pas inquiétées. Ils disent que de telles périodes existent dans des clubs de sport. Ils espèrent retrouver leur niveau sans tarder. L'équipe qui a marqué plus de buts que les autres est Atlético New Oil qui a battu Flambeau de l'Est sur un score fleuve de 5-0. Au total, 20 buts ont été marqués en 8 rencontres pour cette 8e journée. Au basketball, dans le tournoi des zéros, à savoir Guagasole Louis et Mekion Dadaye, organisé par la fondation Pax de Burundi, Urunani a encore une fois battu facilement New Star sur un score de 73-55 et Dynamo a éliminé de ce tournoi Kern par 74-71. Chez les dames, Gladiator a battu Messager Ngozi par 61-48 et Young Sisters a créé la surprise en battant les Gazelles sur un score de 57-43. La finale de ce tournoi des zéros est prévue ce jeudi au département des sports.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction de la radio Inzambagate Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également, chères auditrices et auditeurs, de nous rester fidèles. Au revoir.